Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Chantons, règne, règne. Si tu le crois, chante-le avec moi. Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu règnes. Peu importe, Seigneur, les courants politiques, les changements dans nos vies, dans notre nation, dans nos circonstances, Seigneur. Laisse, Seigneur, que ces refrains soient ces lits vers lesquels nous pourrons toujours nous tourner, même quand nous sommes dans la confusion. Que toi, ô Dieu de gloire, tu règnes. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et rien, Seigneur, de ce qui nous arrive, rien, Seigneur, de ce que nous pouvons traverser, ne te prends par surprise, parce que tu règnes, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire, pour ces instants que tu nous accordes, afin que nous puissions encore une fois écouter de ta part. Ma prière, Seigneur, est que tu puisses parler à nos cœurs. Ma prière, Seigneur, est que tu puisses encore une fois m'utiliser, afin que je sois un dispensateur de tes grâces pour les personnes qui sont réunies ici aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous aider, tu vas nous parler, car c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Bonjour encore. Voilà, c'est encore une fois un honneur, un privilège de me retrouver devant vous. Je ne sais pas combien d'entre vous étaient là la semaine passée. OK, quelques personnes. Voilà. Et si vous étiez là, et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste vous faire un petit rappel qu'au cours de ces derniers dimanches de décembre, nous sommes en train de revoir un peu ce que la naissance de Jésus signifie pour nous en tant que croyants. Est-ce que ça signifie seulement cette période où quand on était enfant, on s'attendait à des cadeaux, on s'attendait à ce qu'il y ait une nourriture spéciale, ou bien il y a bien plus que ça? Et nous avons vu, il y a deux dimanches, je pense, qu'au fait, la naissance de Jésus, c'est aussi l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons vu que Dieu est fidèle à sa parole et que réellement ce qu'il a dit, il l'accomplit. Le dimanche passé, nous avons vu combien le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de l'impossible. C'est un Dieu qui travaille même aux endroits les plus inattendus. On n'a pas besoin peut-être d'avoir toutes les réponses. On n'a pas besoin d'avoir tous les moyens en main pour voir Dieu agir. Il suffit de répondre comme Marie, de qui nous avons appris la semaine dernière, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous allons voir Dieu agir encore et accomplir de grandes choses, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un thème qui est intitulé « Un Dieu à l'œuvre, peu importe les circonstances ». Je ne sais pas pour vous, mais vous est-il déjà arrivé de vous dire « En tout cas, moi, je ne suis pas en train de voir Dieu agir dans ma vie. Je ne suis pas en train de voir la main de Dieu vraiment. Avec tout ce qui se passe, vous pouvez même vous poser des questions. Où se trouve Dieu quand des personnes sont en train d'être massacrées ici et là? Où se trouve Dieu peut-être quand j'ai traversé telle ou telle autre situation? Où était-il? Était-il toujours à l'œuvre? J'espère que le message de ce jour va répondre un peu à ce genre de questions, mais aussi à la lumière du contexte dans lequel nous nous retrouvons en tant qu'une nation. J'ai pensé aussi que ce message pouvait répondre à une question que des fois beaucoup de chrétiens se posent peut-être en secret, mais moi je me la suis posée. Quel est le meilleur système politique pour les chrétiens? Quel est le système politique qui est le plus favorable pour l'Église ou pour les chrétiens ou les croyants que nous sommes? En définitive, qui contrôle les cours de l'histoire? Je pense que l'histoire de la venue du Christ peut aussi répondre à des grandes questions comme celle-là. Et je pense avec vous que quand nous allons lire ce passage qui nous a été proposé, Nous allons apprendre quelque chose et nous allons avoir quelques réponses. Nous allons avoir lumière à ces grandes questions. Et je pense que ce message est très pertinent pour cette saison parce qu'il va, c'est une grande opportunité pour nous aussi de parler de quelle attitude nous devons prendre dans cette saison des élections, mais aussi de savoir aussi comment nous pouvons nous comporter en tant que personnes de la foi face au changement des systèmes politiques, au changement des saisons et ainsi de suite. Amen. Alors nous allons tous lire ensemble dans la Bible, dans les livres de Luc chapitre 2, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. La Bible nous dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son premier fils né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et quoi de plus propice que l'histoire de la naissance de Jésus pour nous donner lumière sur certaines questions? Parce qu'aujourd'hui, la politique fait les baises, n'est-ce pas? Vous les voyez comme moi, et la politique nous frustre des fois. Moi, j'ai été frustré toutes ces semaines, parce qu'à chaque fois que j'allais au travail en ville, souvent, au moins une ou deux fois la semaine, il y avait toujours un podium au milieu de la route. Et je disais, mais est-ce qu'on a un maire de la ville? Est-ce qu'il y a des personnes qui réfléchissent un peu qu'on n'a qu'une seule grande route qui mène vers la cité où il y a toutes les activités, ou qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est un peu ça, en fait. La politique peut être très frustrante, et la politique, elle a un grand pouvoir parce qu'elle dirige non seulement les cours de la nation, et elle affecte aussi notre quotidien. Vous l'avez vu comme moi cette semaine, les embouteillages, on n'en parle même pas. En tout cas, pour arriver à la maison, si tu prenais le bus cette semaine, en tout cas, c'était très compliqué. Tu prends le bus à 17h, tu arrives à 19h moins. Tout ça à cause de la politique, n'est-ce pas? Et on peut se demander, mais est-ce que Dieu est à l'œuvre dans toutes ces circonstances? Et je crois que cette parole aujourd'hui va nous donner, va nous éclairer un peu. Et je ne vais même pas m'attarder davantage, mais je vais déjà commencer à lire un peu les contextes dans lesquels nous nous trouvons ici. La semaine passée, nous avons vu que l'ange est venu vers Marie, elle lui a donné le message de Dieu, elle lui a parlé des plans que Dieu avait pour sa vie, elle lui a dit que tu avais une faveur, et cette faveur c'est quoi? C'est que tu allais porter le Fils de Dieu, le roi des rois, le Messie, c'est lui qui devait délivrer Israël. Et des fois, quand on reçoit la faveur de Dieu, on se dit, en tout cas, ma vie va changer. Parce que je sais que dans la plupart des fois, quand on reçoit des messages du genre, en tout cas, toutes les prières que tu es en train de faire depuis le début de l'année, Dieu va y répondre. On dit toujours Amen, n'est-ce pas? En tout cas, tout ce que tu attends, mariage, argent, boulot, tu vas recevoir. On dit toujours Amen, n'est-ce pas? Parce qu'on croit vraiment que Dieu est capable de faire toutes ces choses. Et je ne suis pas contre ce genre de prières. Mais j'aimerais quand même nous ramener à une chose, à savoir que des fois, la faveur de Dieu n'est pas favorable. C'est une faveur, oui, mais dans la pratique, quand on se retrouve maintenant en train de marcher dans cette faveur, les situations ne seront pas toujours favorables. Ne seront pas toujours favorables. La semaine passée, j'ai dit que quand Marie a accepté le message de l'ange, c'était aussi un oui à tous les risques qui venaient avec ce qu'elle venait d'accepter. Non seulement les risques d'avoir des personnes qui vont parler d'elle, du genre « Ah, on est surpris, comment est-ce qu'elle est enceinte alors que le mariage n'a pas encore été célébré ?» Ça, c'est déjà des rumeurs qui pouvaient circuler à propos d'elle. Elle risquait aussi son mariage avec Joseph. N'eût été l'ange qui avait parlé à Joseph. Lui aussi, il commençait déjà à penser à faire quoi? À rompre, n'est-ce pas? Tout ça, c'était des risques. C'était une faveur, oui, mais quand elle marchait dans cette faveur, tout n'était pas vraiment favorable à elle. Amen. Et donc, il faut dire oui au plan de Dieu, mais ne pas toujours s'attendre à ce que ça sera toujours rose. Et je pense que le moment qui a été encore le plus difficile, Surtout pour les personnes peut-être qui savent un peu le processus dans lequel les femmes passent quand elles sont enceintes, c'est d'entendre qu'un gouverneur s'est levé, ou bien un roi là-bas, un roi, s'est levé un bon matin et s'est dit, au 9e mois vraiment de la grossesse de ta femme, le roi s'élève et dit, « Ok, aujourd'hui je demande à ce que tout le monde qui est sous mon empire puisse aller dans sa ville d'origine et qu'ils aillent se faire enregistrer. » C'est très frustrant. Je pense que cette nouvelle, Marie et Joseph ne l'ont pas récit à bras ouverts. Parce que Joseph, un homme responsable, pouvait se dire, « Mais ma femme est à 9 mois, presque à la fin, n'est-ce pas, de sa grossesse. Et maintenant, il y a cette nouvelle, il faut qu'elle se déplace. » Vous savez que même dans les avions, quand une femme est déjà enceinte de 7 mois, on refuse qu'elle se déplace en avion. Vous saviez ça? Et maintenant, cette nouvelle, il y a un roi qui décide là-bas et se dit, en tout cas, maintenant là, je décide à ce que tout le monde rentre chez lui. Si tu es de Katwa, tu retournes à Katwa, c'est là que tu vas te faire enregistrer. Si tu es de Kitsombiro, tu vas à Kitsombiro et c'est là que tu vas te faire quoi? Enrôler. Imaginez-vous un peu, même pour nous, essayez un peu d'imaginer si on disait, bon, chacun va se faire enrôler dans son village d'origine. Même si tu es à Goma, il faut que tu retournes à Kitobindo. C'est là que tu vas te faire enrôler. Toi-même, tu ne sais même pas là où ça se trouve. Mais comme le gouverneur vient de le dire, il faut que tu y ailles. Imaginez un peu l'inconfort que ces gens pouvaient subir. Et ils pouvaient se poser cette question que nous nous posons aussi, ou se dire, mais Seigneur, finalement, où es-tu dans toute cette histoire? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Mais Luc, qui a écrit cette histoire ici, qui nous a relaté ces faits, c'était un bon chercheur, parce qu'il a vraiment pris le temps de préciser tout ce qui était en train de se passer autour de la naissance de Jésus. Et il commence, il dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Et si on ramenait ça dans notre contexte aujourd'hui, on pouvait dire, en ce temps-là, Chilombo Félix était président de la République et il décida que tout le monde aille se faire recenser. Une première leçon que nous pouvons tirer même de ces versets, c'est que la naissance de Jésus n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas comme ces mythes-là qu'on écoute dans la mythologie grecque. Ce n'est pas comme l'histoire d'Hercule ou bien de Thésée et le Minotaure, non. Ce n'est pas un mythe, c'est un fait historique. C'est un fait historique. Parce que Luc prend soin de nous dire quand, qui régnait et qu'est-ce qui s'est passé autour de la naissance de Jésus. Ce n'est pas un mythe, c'est un fait historique, quelque chose qui s'est déroulé dans l'histoire. Et il dit, en ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre, pourquoi? Parce que dans les temps anciens, on pensait vraiment que le monde se limitait à ces pays-là, hein, ces terres qui étaient autour de la Méditerranée. Okay? On n'avait pas encore découvert l'Inde, la Chine, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique profonde. Non, on n'avait pas encore découvert toutes ces choses-là. Et donc, dans la tête des Romains de l'époque, ils savaient que la terre, vraiment, toute la terre, c'était cette zone-là, méditerranéenne, Israël, l'Italie, l'Afrique du Nord, l'Égypte, okay? L'Éthiopie un peu, juste cette zone-là de l'Asie mineure. Quoi. Okay? C'est pour ça qu'on pouvait dire toute la terre. C'est comme ça qu'ils connaissaient le monde. Et donc César Auguste, qui était aussi l'un des grands empereurs de l'Empire romain, il pensait qu'il était empereur sur toute la terre. Et donc ce jour-là, il s'est réveillé, il a dit, en tout cas, tout le monde retourne chez eux et ils vont se faire recenser. Certains disent qu'il avait dit ça pour qu'il puisse bien tracer les taxes que les gens devaient payer. Ça, c'est juste quelque chose que j'ai lu dans un commentaire, je ne sais pas si c'est vrai, personne n'était là pour nous le dire. Donc voilà, prenez-le comme vous voulez, ok? Et donc César décide de prendre cette décision, mais cette décision pouvait vraiment confondre des personnes comme Marie et Joseph, surtout dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Et des fois, nous entendons aussi des décisions qui viennent d'en haut et qui peuvent aussi nous frustrer, n'est-ce pas? Et on se dit, mais finalement, pourquoi? Où est Dieu dans cette décision? Pourquoi est-ce qu'il décide que, voilà, j'ai lu quelque part en ligne aujourd'hui qu'il y a une église à laquelle on a demandé de ne pas tenir ses cultes les dimanches, mais de les tenir les samedis pour accueillir un certain homme politique. Je suis sûr que si je me mets dans la peau du pasteur de cette église, il doit aussi se poser ce genre de questions. Mais finalement, c'est quoi ça? Où est Dieu dans cette histoire? Où est Dieu dans cette décision? Et à première vue, on peut penser que ce César Auguste venait de prendre une décision qui était un fait du hasard, qui devait pousser Marie et Joseph à se déplacer de Nazareth à Bethléem. Mais vous devez savoir que cette décision faisait partie d'un plan. Tout était réglé au détail pour que la naissance de Jésus se déroule telle que les prophètes l'avaient prédit. Telle que les prophètes l'avaient prédit. Si vous lisez avec moi Michée chapitre 5, verset 2, ou verset 1 dans certaines versions, la Bible nous dit « Et toi, Bethléem, Ephrata » Bethléem et Ephrata, c'est la même chose, ok ?« Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Cette prophétie avait été prononcée plus de 500 ans avant que l'empereur César Auguste ne prononce ces paroles-là pour dire « Tout le monde va se faire recenser. » Cet empereur, c'était un empereur païen. Mais on voit derrière cette décision qu'il y avait la main de Dieu qui était toujours au contrôle. Il était au contrôle. Parce que ce que Dieu a prédit, ce que Dieu a dit, devrait se dérouler exactement comme il l'a prédit. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Il fait toutes choses avec une précision détail. Grande précision. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Et c'est de là que vient notre deuxième leçon de ce jour, c'est que Dieu est toujours en arrière-plan en train de diriger les cours de l'histoire. Dieu est toujours en arrière-plan en train de diriger les cours de l'histoire. Vous pouvez peut-être penser que votre cours ordinaire de la vie sort en dehors de ce que Dieu est en train de faire, mais ne vous y trompez pas. Dieu n'est pas seulement ici quand nous nous réunissons et que nous chantons. Tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons au courant de la semaine, tous les cours ordinaires de votre vie, il y a un Dieu qui est derrière. Mais comment le savoir? À cette question, on va y répondre dans la partie conclusive des messages que nous sommes en train de voir ce matin ou cet après-midi. Amen. Alors là où nous voyons des simples décisions humaines, le plan de Dieu est toujours à l'œuvre. On peut penser, mais comment est-ce que ce pays est tel qu'il est, ainsi de suite. Et on pense que Dieu l'a déjà abandonné. Ah non, Dieu ne l'a pas encore abandonné. Le plan de Dieu est à l'œuvre. Peu importe la personne qui sera président au 31 décembre, Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu ne sera même pas surpris parce qu'il sait déjà. Lui sait déjà quel sera le résultat de ces élections. Il est toujours là, à l'œuvre. La Bible nous dit... Là où nous voyons des simples décisions humaines, le plan de Dieu est à l'œuvre. Et la Bible nous dit en Daniel chapitre 4, verset 18, « Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. » Dieu, quand on dit « roi des rois », il est roi des rois. Est-ce qu'on connaît vraiment la signification de ce qu'on est en train de dire là? « Les seigneurs des seigneurs ». Ou bien on chante seulement, c'est joli, ça fait bon à entendre. Mais il faut comprendre qu'il est réellement roi des rois. Et que peu importe les dirigeants que nous pouvons avoir, Dieu est toujours à l'œuvre. Même en arrière-plan, même quand on ne le voit pas, il est là. Et cette décision que César Auguste venait de prendre, elle venait peut-être de sa volonté. Mais il y avait aussi Dieu qui avait prédit que la chose allait se dérouler telle qu'elle s'était déroulée ce jour-là. Il fallait que Marie et Joseph quittent Nazareth et qu'ils aillent à Bethléem. C'est là que Jésus devait naître. Mais Dieu passe par la décision d'un roi païen pour accomplir sa volonté. Amen. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai lu l'histoire d'un roi perse qu'on appelait Cyrus, Cyrus le Grand. Cyrus le Grand, c'était un roi perse. Et il régna sur la Perse entre 539 et 530 avant Jésus-Christ. Ça, c'est 9 ans. Okay? C'était un roi païen. Il ne croyait pas en Dieu. Mais on nous dit qu'il a joué un rôle crucial dans l'histoire des Juifs. Parce que c'est au cours de son règne que le peuple avait été libéré de l'exil en Babylone après 70 ans de captivité. Si vous avez bien lu le chapitre de Jérémie, chapitre 29, ou bien vous lisez seulement les versets 11, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu les chapitres là en entier? Voilà mon assommage à tout, car je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ah, je reçois. Et du coup, on ne sait pas comprendre le contexte de tout ce qui est en train de se passer. Mais dans ce chapitre, en fait, Jérémie dit aux exilés que non, 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 vous allez rester à Babylone pendant 70 ans. Il prévoyait, il disait déjà ce qui allait se passer. Et donc, après ces 70 ans, ce roi ici a été suscité. Il y a eu quelque chose qui a été suscité en lui et il a décidé de libérer les Juifs. Mais vous savez que cette libération, elle avait aussi été prédite 150 ans avant même que ce roi n'ait existé, à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe avait déjà prédit et il a même prononcé le nom de ce roi, Nahazaliwakat. Il n'était même pas encore né. Ésaïe a dit en Ésaïe chapitre 45, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montués. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Le verset 13 dit, « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. » 150 ans avant même que ce Cyrus n'existe, on savait déjà ce que Dieu allait accomplir à travers de lui. Ça a été prononcé. Parce que Dieu est à l'œuvre. Derrière chaque chose qui arrive dans l'histoire, Dieu est à l'œuvre. Ses plans continuent toujours à s'accomplir. Et ses plans sont pour le bien de ceux qu'il aime et de ceux qui les cherchent. Amen. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et si vous regardez un peu dans la Bible, un peu plus en profondeur, vous allez voir que si vous lisez des chroniques à la fin, on nous dit comment Cyrus a été suscité et qu'il a fait quoi? Il a libéré les Israélites après 70 ans de captivité, tel que Dieu l'avait prévu. Tel que Dieu l'avait prévu. Et ça, moi, ça me rassure. Parce que des fois, quand je regarde, quand je lis un peu sur la politique, parce que ça m'intéresse, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse, je lis beaucoup, je suis les informations, il est fort possible que vous soyez frustré comme moi, je suis frustré. J'ai même quitté Twitter parce que j'étais tellement frustré par tout ce que je lisais sur Twitter que j'ai dit non, 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 ce réseau ici n'est pas en train d'aider mon cœur. Parce que je voyais un peu les nouvelles. C'était surtout à l'époque là de Rwanda is killing. Okay? Yeah, il y avait un trend là qu'il y avait là, une tendance là qui arrivait. On disait ça, ça, ça. Et je voyais tous les commentaires. Ça m'a tellement frustré que j'ai dit non, 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 je quitte ces réseaux. Il est fort possible qu'on soit frustré par ce qui nous dirige, qu'on soit frustré par ce qui est en train de se passer, les décisions peut-être que nous devons subir. Mais cette parole veut nous rappeler encore une fois que Dieu n'est pas pris par surprise. Dieu est là. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et il est en train d'agir pour notre bien, nous qui l'aimons. Amen. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ceci a de grandes explications sur la façon dont nous devons considérer toute autorité de ce monde, ou bien tout pouvoir de ce monde. Et c'est là que je vais vous donner quelques principes. De ce que je viens de dire, je pense que nous avons déjà tous compris que Dieu est suprême, qu'il est le créateur, que peu importe les décisions humaines qu'il peut y avoir, Dieu est là et c'est sa volonté qui finira toujours par s'accomplir. Toujours, toujours par s'accomplir. La deuxième chose, c'est que nous devons savoir, c'est que tous les rois, tous les chefs que nous connaissons, ce sont tous des sous-rois. C'est pourquoi on dit il est roi des rois ou seigneur des seigneurs. Parce que toutes ces personnes, ça commence même dans Genèse où Dieu crée l'homme à son image pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse dominer. Mais il domine sous la supervision de Dieu. C'est seulement quand l'homme rejette Dieu que quand il domine, ça fait mal. À partir du moment où l'homme rejette Dieu, sa domination fait mal. Fait mal à la création, fait mal à d'autres hommes, fait mal à tout ce qui l'entoure. Parce que quand l'homme rejette Dieu dans sa domination, ça fait très mal. Et tout ce que nous voyons, c'est la conséquence du rejet de Dieu dans les cœurs des hommes. Des hommes qui ne connaissent pas Dieu, quand ils sont appelés à dominer, ça fait très mal. Et vous pouvez les lire dans l'histoire avec des gens comme Hitler, des gens comme Idi Amin, ainsi de suite. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais ils sont arrivés à des positions d'autorité. Et ça a fait mal. Ça fait mal. Et c'est pourquoi je prie toujours que toutes les personnes qui aspirent vraiment à une position d'autorité, que ce soit des personnes qui craignent Dieu, qui le connaissent. Parce que si elles ne le sont pas, ça va faire très mal. Très, très mal. Ça va faire très mal. Autre chose que nous devons savoir en conséquence, parce que l'homme, beaucoup d'hommes ne connaissent pas Dieu, tous les systèmes de gouvernance humains auront des failles. Tous les systèmes. C'est pour ça que je vais encore une fois nous rappeler que des fois, je regarde un peu les gens dans la campagne qui se battent pour tel ou tel autre candidat. Ils disent en tout cas, et même à la maison, tu amènes même tes frères et tes sœurs, en tout cas, comme on va voter, tu es un traître dans cette famille, ainsi de suite, à cause d'un homme. À cause d'un homme. Mais vous devez savoir que l'homme reste l'homme. Et que tout ce que l'homme fait, surtout quand il ne connaît pas Dieu, aura toujours des failles. Vous allez vous blesser. C'est pourquoi c'est une erreur grave de mettre tous ses espoirs en un homme. Une erreur très grave. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est une sagesse que nous devons toujours avoir, même dans ce contexte ici. Ça veut dire que nous savons que même quand nous votons, c'est vrai, nous allons choisir parce que nous avons la liberté de choisir. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'un homme nous donne ce que seul Dieu peut nous donner. Il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut toujours s'attendre que cet homme, oui, il aura peut-être des forces, mais il aura aussi des faiblesses, et beaucoup de faiblesses. Et malheureusement, beaucoup d'hommes, quand ils sont dans des moments de faiblesse, ils ne se tournent pas vers le Dieu qui peut encore une fois transformer nos faiblesses en force. Malheureusement. Malheureusement. Et donc, vos attentes là, quand vous allez aller voter, il faut toujours les garder avec une certaine sagesse. N'attends pas qu'un homme te donne ce que seul Dieu peut te donner. N'attends pas qu'un homme comble les vides que seul Dieu est capable de combler. Tous les systèmes de gouvernance humains auront des failles. Tous. Et vous devez aussi savoir que la Bible ne dit pas que, bon, c'est la démocratie qui est le bon système de gouvernance pour les enfants de Dieu. Nope. Elle ne le dit pas. Ou bien c'est la dictature. Nope. Elle ne dit pas ça. Plusieurs formes de gouvernement peuvent honorer les plans de Dieu et diriger ses desseins à travers le monde. Parce que si vous lisez un peu l'histoire de la chrétienté, elle a survécu à travers des dictatures, à travers des démocraties, à travers des monarchies, toutes formes de gouvernance, mais l'Église de Dieu a continué encore et encore. Et le plus intéressant, c'est que c'est parmi les monarchies où elles ont été les plus persécutées que l'Église a grandi. Parce que nous sommes vraiment des personnes qui grandissent aussi à travers les souffrances. Nous triomphons à travers la souffrance. Christ a triomphé à travers sa souffrance, n'est-ce pas? Il fallait qu'il meure pour que nous soyons libérés. Et donc, ne pensez pas qu'il y a vraiment un système qui est le plus propice que notre pour les plans de Dieu. Dieu règne suprême, peu importe la forme de gouvernance. Dieu règne suprême. Autre chose que nous devons savoir, c'est que notre identité se trouve dans le fait d'abord que nous avons été créés à l'image de Dieu et que nous faisons partie d'une grande famille, la famille multiethnique de tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est là notre première identité. C'est là notre première citoyenneté, si je dois le dire. Avant d'être Congolais, je suis d'abord un enfant de Dieu. Je suis d'abord un enfant de Dieu. Et par conséquent, ma première allégeance sera toujours vers le Christ, toujours vers Dieu. L'ultime soumission de ma vie, ça sera d'abord vers les dieux que je sers. C'est ça la première chose que nous devons savoir. Et c'est pour ça qu'un chrétien, oui, nous devons être des patriotes, mais n'oublions pas quelle est notre première identité. Quelle est notre première identité? De quelle famille nous faisons partie? J'ai toujours dit aux gens ici que les services anglophones que nous avons ici, ça nous donne un peu une idée de à quoi ressemblera le ciel. Parce qu'il y a des gens de toutes les nations, il y a des gens de toutes les couleurs, et on est tous là à cause d'un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et je peux vous dire, je peux vous le témoigner, que j'ai dormi dans des maisons dans lesquelles je ne pensais pas que j'allais dormir. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. dans des pays auxquels personne, juste le fait qu'ils savent que oh, c'est un frère, il croit comme nous et il m'accueille. Parce que notre première identité, avant d'être Congolais, avant d'être Kenyan, avant d'être Rwandais, nous sommes d'abord quoi? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est là notre première identité. Et donc notre première soumission n'est pas d'abord à un parti politique, n'est pas d'abord à un homme politique, mais elle est au roi qui est ressuscité et qui règne. Les partis politiques vont passer, les hommes politiques vont passer, mais Christ régnera toujours. Christ va régner. Il continue à régner. Amen. Autre chose que nous devons savoir, je viens de dire que notre première allégeance, c'est d'abord vers Christ. Pas un homme politique, pas un parti politique. Et cette allégeance, cette soumission-là, se caractérise toujours par notre soumission aux enseignements de Christ. Toujours. Tu ne peux pas dire que tu fais partie de ce royaume si tu n'es pas en train de marcher dans les voies de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si on ne voit pas en toi les fruits de l'Esprit. Si on ne voit pas en toi la patience, si on ne voit pas en toi la bénignité, si on ne voit pas en toi l'amour, tu ne peux pas dire que tu fais partie de ce royaume. Ça, c'est une des marques distinctives des citoyens du royaume de Dieu. Une autre marque, c'est que ce sont des personnes qui aiment les prochains. L'amour du prochain. Ce sont des personnes qui cherchent le bien-être des autres avant les leurs. Et si tous les politiciens avaient cet amour du prochain en eux, en tout cas, je pense qu'on vivrait dans un paradis, n'est-ce pas? Si tous les politiciens avaient l'amour du prochain en eux, il dit, ils cherchent le bien-être des autres avant les leurs, on serait dans un paradis. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Quand vous dites que je suis chrétien, ça veut dire que vous devez chercher à bénir les autres. Vous devez chercher à être une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Jésus a changé ça. Il dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il y a quelque temps, j'avais écouté une chanson d'un rappeur et la chanson avait comme titre « No Enemy ». Et ce rappeur faisait un point dans ce cantique que, en tout cas, après la lecture de ce passage, je trouve qu'un chrétien n'a pas vraiment d'ennemis. Il n'a pas vraiment d'ennemis. Parce que nous sommes appelés à faire quoi? À bénir ceux qui nous persécutent. Nous sommes appelés à prier pour ceux qui nous pensons qu'ils sont nos agresseurs, ainsi de suite. Et il a fait un cantique comme ça, « No enemy ». Et quand j'y pense, je dis, ah, c'est possible. Mais quand même, il peut arriver que quelqu'un vous agace et au lieu de prier pour lui, vous faites un peu comme Pierre, vous coupez l'oreille, quoi. You know, ça arrive. Mais ce n'est pas à ça qu'on nous appelle. Prions pour nos ennemis. Amen. Prions pour nos ennemis. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. La Bible dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. Et comment est-ce qu'il va augmenter de plus en plus parmi nous? À l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Ça veut dire grandissez en amour à l'égard de tout le monde. Pas seulement les personnes qui nous plaisent. Pas seulement les personnes, notre candidat favori. Peu importe la personne qui sera là, nous devons grandir en amour envers tous. Tous. Parce que généralement, quand on salue les gens, quand on fréquente les gens, on fréquente seulement les personnes que nous préférons, n'est-ce pas? Mais même cette personne-là qui te regarde, tu te dis, ah, je n'aimerais pas être avec cette personne. Ah, t'es na méfica. Aïe, aïe, aïe. Mais la Bible nous dit de faire quoi? De les aimer, de chercher le bien de tout le monde. C'est à ça que ressemble un citoyen du royaume de Dieu. C'est à ça que ressemble un citoyen du royaume de Dieu. La Bible dit encore, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, nous, en tant que chrétiens, soit envers tous. Tout le monde, tout le monde. Nous sommes appelés à faire le bien commun. Cherchez le bien commun. Et donc nous avons une double citoyenneté, ça je viens de le dire encore et encore, qu'avant d'être Congolais, nous sommes citoyens du ciel. Nous appartenons au royaume du ciel. Mais nous sommes aussi membres de nos nations, de nos familles, et toutes ces choses constituent également notre identité. Et par conséquent, quand nous vivons dans un système politique, ça ne veut pas dire que nous devons rester indifférents. Ça ne veut pas dire que nous devons juste laisser les cours de l'histoire se dérouler tel qu'il doit se dérouler dans nos nations. Nous sommes appelés à chercher les biens également de nos nations. La Bible nous dit que quand Jérémie parlait aux enfants d'Israël qui étaient en exil, il leur a dit « Recherchez les biens de la cité dans laquelle vous vous trouvez. » Parce que quand elle sera en paix, vous serez aussi en paix. Recherchez les biens. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, né au Congo, nous devons rechercher les biens et la paix de ces pays. Nous devons les faire. Nous devons être des citoyens actifs. Et si nous avons l'opportunité de participer dans les institutions de ces pays, il faut les faire. Mais il faut les faire pour les biens communs, les biens de tous, pas seulement de ta tribu, pas seulement des gens de ton quartier. Non, non, à partir du moment où tu vas dans une institution publique, tu comprends bien qu'elle est publique, ça veut dire que tu dois travailler pour les biens de tous. Et je me demande si tous ces politiciens avaient cette idée, comment est-ce qu'on serait? On serait vraiment dans un paradis, un système politique propice pour tous. Et je pense que tous ceux qui aspirent à une carrière politique dans leur vie, vous qui êtes jeunes, c'est à l'église que vous devez apprendre ces choses. Parce que la plupart d'entre eux arrivent là-bas et ils n'ont jamais appris ces choses. Ils n'ont jamais appris pourquoi Dieu les appelle là où ils sont. Et c'est pour ça qu'ils se laissent diriger par tous les courants, les tendances qu'il y a là-bas. Parce qu'ils n'ont jamais appris ces choses. Ils n'ont jamais appris ces choses. Et nous avons l'exemple dans la Bible des personnes qui ont cru en Dieu et qui ont travaillé dans des systèmes politiques de ce monde. Joseph est un exemple, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me dire que les pharaons croyaient en Yahweh. Non, ils n'y croyaient pas. Mais quand il a vu la sagesse de Joseph, il a dit non, 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 il faut que ce messier soit dans mon gouvernement. Et il a fait sa part. Les blés qu'il a rassemblés n'étaient pas seulement pour les Israélites. Ce n'était pas seulement pour sa famille. C'était pour tout le monde. Tous les peuples de la terre venaient faire quoi? S'approvisionner en Égypte. Les biens de tous. Un autre exemple, c'est l'exemple d'Esther. Elle aussi, elle est devenue reine dans un royaume païen. Et Dieu l'a utilisée pour sauver son peuple. Un autre exemple, c'est l'exemple de Daniel. Daniel a servi plusieurs rois, pas seulement un seul, plusieurs rois païens. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé chez lui, c'est son allégeance à Dieu, au seul vrai Dieu. Et pendant que j'étais en train de faire des recherches sur ces messages, j'étais en train de lire et j'ai vu que Daniel a même vécu à l'époque où les rois Cyrus étaient rois. Ces rois-là qui avaient libéré, oui, ces rois-là qui avaient libéré les peuples d'Israël de l'exil. Et certains historiens disent que Daniel pouvait avoir influencé cette décision. Parce qu'il était là, il était dans la cour des grands. Parce que Dieu, partout où il nous appelle pour un plan. Il nous appelle pour un plan. Pour le bien de tous, mais aussi pour le bien de son royaume. Il pouvait avoir influencé cette décision. Parce qu'on dit qu'il pouvait être la personne qui avait montré au roi les prophéties qui avaient été dites sur lui. Pour dire que voilà, il y a un tel prophète de tel temps qui avait dit ceci sur toi. Et le roi a dit, ah bon, ah ok, ça va, je signe l'arrêté, rentrez chez vous. Possible, on ne sait jamais. Mais ça c'est l'histoire, on n'est pas trop sûr. Mais sachez que Daniel a servi dans tous ses gouvernements. Et il n'a jamais, jamais perdu son intégrité. Jamais. Et de Daniel, on apprend aussi que quand l'autorité établie exige une loyauté qui compromet nos valeurs chrétiennes, nous sommes appelés à humblement nous y opposer. Ça veut dire qu'il peut arriver que quand tu te retrouves dans un parti, dans une position de pouvoir, on commence à te demander de faire des choses qui sont contraires à ta foi. En tant que citoyen du ciel d'abord, tu dois dire non. Tu dois dire non, tu dois t'y opposer. Il y a un théologien qui appelle ça une critique prophétique. Pourquoi est-ce qu'il appelle ça une critique prophétique? C'est parce que les prophètes sont les personnes qui disent la vérité aux personnes qui sont au pouvoir. Daniel, j'étais en train de lire dans Daniel, j'ai lu un passage où Daniel dit à Nabuchodonosor, en tout cas, il faut que tu te répandes. Répands-toi. Il dit au roi, le tout-puissant Nabuchodonosor, qui régnait sur le monde à cette époque-là. Il lui dit, en tout cas, répands-toi, Change tes voies, sinon toutes les choses que je viens de te prédire ici vont arriver. Nabucodonosor, malheureusement, ne s'était pas repenti à ce moment-là. Et vous savez tout ce qui s'était passé, il a mangé de l'herbe comme des bêtes. Il ne s'était pas repenti. Mais si Daniel ne craignait pas Dieu d'abord, il aurait eu peur de dire ce message au roi. Imagine-toi, tu viens dire à notre président, en tout cas, repens-toi. Maintenant, là, on t'arrête, on te fouette, ainsi de suite. Et Daniel était prêt à subir toutes ces choses-là pour donner le message de Dieu. Parce qu'il était d'abord citoyen du ciel. Notre première citoyenneté. Et donc, vous venez de le voir que toutes les décisions qui arrivent ici, Dieu n'est pas pris par surprise. Il n'est pas pris par surprise. Et nous, c'est pour ça qu'il est très important pour nous de prier pour ceux qui dirigent. Prier pour ceux qui dirigent. Proverbe chapitre 21. J'aimerais qu'on lise ça parce que c'est quelque chose de très puissant. Proverbe chapitre 21 dit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Peu importe la personne qui dirige. La Bible nous dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Et quand nous prions pour les dirigeants, nous devons prier que Dieu puisse incliner le cœur des dirigeants vers des choses qui vont aider les biens de tous, vers les choses qui vont aider le peuple. Une dernière chose pendant que nous sommes en train de conclure, c'est que comment est-ce qu'on peut être plus aware, je ne sais pas comment on dit ça en français, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que Dieu est à l'œuvre malgré les circonstances? Comment? La chose, elle est simple. C'est le dernier point de ce message, c'est que seuls ceux qui se confient à Dieu peuvent regarder en arrière et voir que sa providence était tout le temps à l'œuvre. Seuls. Il y a des personnes qui prennent des décisions, mais ne peuvent pas savoir que c'est Dieu qui est en train d'agir, non. Je pense que tous ces rois, quand ils prenaient ces décisions, ils ne savaient pas. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est seulement les personnes qui se confient à Dieu. C'est seulement les personnes qui ont déjà crié en sa main, qui peuvent regarder en arrière et dire, ah oui, ce que vous avez fait, vous vouliez le faire pour le mal, mais c'était la main de Dieu qui voulait le faire pour le salut de plusieurs. Celle qui s'est confiée à Dieu, comme Joseph qui s'est confié à Dieu, malgré toutes les mauvaises choses qu'il a traversées, peuvent regarder en arrière et se dire, ah, tout ça, c'était Dieu, c'était la main de Dieu qui voulait m'amener jusqu'à un certain point. Celle qui s'est confiée à Dieu peut voir sa providence. Et la providence de Dieu, c'est quoi? La providence de Dieu, c'est quand Dieu dirige les cours ordinaires, utilise les cours ordinaires de notre vie pour accomplir ses plans. Il utilise les cours ordinaires de notre vie pour accomplir ses plans. Mais tu ne les verras jamais tant que tu n'as jamais remis, rendu, soumis ta vie à ces dieux-là. Tu ne les verras jamais. Et j'ai des fois pitié des personnes qui marchent dans la vie sans Dieu. Parce que je me dis, s'ils pouvaient même voir ce que Dieu est en train de faire dans ce monde, ils seraient vraiment dans les merveilles. Parce que nous, notre espoir n'est pas comme celui de ces personnes qui ne croient pas. Parce que notre espoir est dans le roi des rois qui régnera pour toujours et pour toujours. Quand l'ange est venu vers Marie, vous savez ce qu'il lui a dit à propos de l'enfant? Il a dit que c'est le roi. Laissez-moi, on va lire ça. Et on est en train de conclure. L'ange a dit ceci à propos de Jésus. Il dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Toutes ces personnes qui ne se sont jamais confiées à ces règnes, qui ne se sont jamais greffées à ces royaumes, seront toujours désespérés face au système de ce monde, seront toujours dans le désespoir quand ils voient comment les dirigeants de ce monde ne sont pas en train de tenir leurs paroles. Mais aujourd'hui, je nous invite encore une fois, en cette Noël, de nous tourner vers ce Dieu-là qui va régner éternellement, mais aussi qui est fidèle à sa parole. Parce que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dit, s'accomplit, finira par s'accomplir. Et donc, je vous invite à aller voter, mais allez voter en ayant ces choses en tête. Nous sommes d'abord citoyens du royaume des cieux. Nous sommes d'abord des personnes qui se soumettent à la seigneurie du roi des rois. Et que peu importe la personne qui sera choisie, la main de Dieu dirige les cœurs des rois comme une rivière. C'est lui qui la dirige où il veut. Sachez que Dieu reste à l'œuvre, peu importe la personne qui est là. Et c'est seules les personnes qui se confient à lui qui peuvent voir que réellement Dieu est à l'œuvre. Et ma question pour toi cet après-midi, est-ce que tu l'as déjà crié à ce Dieu-là? Est-ce que tu as déjà confié ta vie à ce Jésus-là? C'est une invitation pour toi aujourd'hui de demander à ce Dieu de venir et de régner dans ta vie, de régner sur ton cœur, afin que tes yeux puissent être ouverts au plan merveilleux qu'il a pour toi et qu'il a pour ce monde. Parce que Dieu a un plan. Les rois passeront, les systèmes politiques passeront, mais un jour, Jésus va venir et il va régner dans la paix, dans la justice, et nous serons dans la joie. La Bible nous dit encore que toutes nos larmes seront séchées en ces jours-là. Parce que le roi des rois, celui qui est bon, va régner. Est-ce qu'il est roi de ton cœur cet après-midi? Nous allons incliner nos cœurs, nos têtes dans la prière. Et nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner la sagesse pendant cette période, afin que réellement Christ puisse être roi dans nos vies. Et quand il est roi dans nos vies, nous voyons que peu importe ce que nous pouvons traverser, réellement Dieu est à l'œuvre. Et que tout ce qu'il est en train de faire concourt au bien de ceux qu'il aime et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Règne, règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Seigneur, nous te disons merci parce que chaque opportunité que tu nous donnes de venir dans ta présence est aussi une opportunité pour en savoir un peu plus sur toi. Et nous te disons merci parce que tu es un Dieu qui règne, peu importe les circonstances que nous pouvons traverser dans la vie. Père éternel, nous te disons merci parce que tu es le roi des rois. Et la parole aujourd'hui nous montre que même les décisions anodines des hommes, il y a toujours un Dieu derrière qui est à l'œuvre et que ses plans sont en train de concourir au bien de ceux qu'il aime et d'accomplir ses desseins. Père éternel, ma prière pour chacun d'entre nous est que nous puissions toujours être conscients de ce que tu es en train de faire, Seigneur. Qu'un jour nous puissions regarder en arrière et que nous puissions dire que réellement la providence de Dieu était à l'œuvre et elle est à l'œuvre même aujourd'hui. J'ai prié pour quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, qui n'a jamais soumis son cœur et sa vie à ta Seigneurie, qui n'a jamais, Seigneur, accepté cette citoyenneté du ciel, Seigneur. J'ai prié, Père, qu'elle puisse se tourner vers toi et qu'elle puisse, Seigneur, demander pardon pour les moments où elle a rejeté ta Seigneurie, pour les moments où elle a rejeté ton autorité sur sa vie. Parce qu'à partir du moment où nous rejetons ton autorité, ça blesse ceux qui sont autour de nous. Ça blesse ta création et ça blesse toutes choses, Seigneur, que nous pouvons toucher. C'est pourquoi j'ai prié pour le cœur de tout le monde et de quelqu'un ici, Seigneur, afin que nous puissions encore une fois continuer à nous soumettre à toi. Que nous puissions, Seigneur, accepter cette citoyenneté que tu nous offres par ta grâce. Que nous puissions, Seigneur, répondre par la foi à cet appel, à cette invitation, Seigneur, que tu donnes à chacun d'entre nous de nous joindre à tes desseins pour cette terre, Seigneur, afin qu'un jour nous puissions être, Seigneur, des témoins de ton retour, Seigneur, et de ton règne de paix, Seigneur, et de justice. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Merci, Seigneur, parce que tu vas ouvrir les yeux de mon frère, de ma sœur, au plan merveilleux que tu as pour sa vie. Et ils vont soumettre, Seigneur, tout ce qu'ils sont, leur famille, leurs personnes, leurs ambitions, Seigneur, à ta Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, Seigneur. Tu ne faillis jamais. Tout ce que tu dis, Seigneur, finit par s'accomplir. Et tu es celui qui nous accorde la victoire. dans cette vie et dans celle à venir, ô Dieu de gloire. Aide-nous, ô Dieu de gloire, pendant que nous réfléchissons encore, nous réfléchissons et nous regardons en arrière sur la venue de Jésus. Nous prions, Père, que son règne vienne et que sa volonté soit faite maintenant et à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.